Vous savez que cette année est une année riche en élections et aujourd'hui on est encore appelé à aller voter pour certains. Alors pourquoi on vote? À quoi vont servir nos votes? Eh bien, on le saura un petit peu plus tard. Moi, ce genre de truc, c'est pas ma tasse de thé. Alors on va pas s'étaler sur le sujet. En tous les cas, on va être appelé à voter aujourd'hui pour élire de nouvelles personnes qui, dans quelques jours, dans quelques semaines, prendront leur de nouvelles fonctions, de nouveaux pouvoirs, ou alors ils vont être reconduits dans les fonctions qu'ils avaient déjà jusqu'à maintenant. Alors j'ai regardé quand même un peu sur Internet le rôle d'un député qu'on est appelé à élire, enfin des députés qu'on est appelé à élire aujourd'hui, parce que moi, vous savez, à part les rôles de président, premier ministre et ministre, après, les classes en dessous, on se demande des fois un petit peu à quoi ça sert. Donc je suis allé faire une petite recherche quand même et j'ai vu un petit peu ce à quoi ça servirait et entre autres que ben, ces personnes, automatiquement, du moment qu'elles vont être élues, elles vont avoir des pouvoirs. Pouvoir de faire des lois, pouvoir de les voter, pouvoir de les défendre, etc., etc. Et ce terme de pouvoir m'a un peu interpellé, donc c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu aujourd'hui avec vous. Le pouvoir, l'autorité, quelque chose qui est pas donné à tout le monde, mais certaines personnes ont ce besoin de pouvoir. Et je sais pas, mais je pense que les uns et les autres, à un moment donné, on a tous eu envie d'avoir un peu de pouvoir, hein, pour pouvoir faire des fois des choses pas forcément très envisageable, mais enfin voilà, c'est comme ça, je m'étalerai pas sur le sujet. Et en plus, c'est pas en une demi-heure que je vais pouvoir faire le tour de la question. Mais j'ai relevé quelques pistes dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du pouvoir? À qui est-il donné? Comment est-il utilisé? Et qui détient le pouvoir? Etc., etc. Alors c'est à cette dernière question que je vais commencer par répondre. Qui détient le pouvoir? Ce qu'on lit dans Genèse au chapitre 17, le premier verset, nous dit que l'Éternel est apparu à Abraham et qui lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors qui dit Dieu Tout-Puissant dit qu'il a tous les pouvoirs. Il n'a pas dit simplement qu'il était le Dieu Tout-Puissant, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, certes, marche devant ma face et sois intègre. Alors, je ne sais pas si ce terme d'intégrité, c'est un terme que vous utilisez tous les jours, si c'est bien à la hauteur de ce qu'attend notre Dieu maintenant. L'intégrité, ce n'est pas un terme qui est très utilisé, et peut-être encore moins dans nos milieux professionnels, dans certains milieux professionnels en tout cas, et je ne sais pas si les personnes qui vont être élues à partir d'aujourd'hui sauront utiliser cette intégrité qu'il devrait avoir, que Dieu demandait à Abraham. Et ce Dieu Tout-Puissant qui permet à certaines personnes d'accéder à des postes de responsabilité, toutes autorités sont établies par lui, c'est ce qu'on peut lire dans la Bible, et il nous est demandé de prier pour ces autorités. Mais avant d'établir ces autorités, Dieu avait donné à l'homme d'autres pouvoirs, dont celui de dominer sur les poissons de la mer. Vous connaissez ce passage, j'imagine. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, c'est ce qu'on lit dès les premières pages de la Genèse. Mais tout en ayant ce pouvoir de domination, l'homme reste quand même un être inférieur à Dieu, même s'il a souvent tendance à l'oublier. Vous avez peut-être lu le même feuillet de calendrier que moi cette semaine, où il était parlé de Canute, roi d'Angleterre. Je ne sais pas si certains ont lu ce feuillet. En fait, le roi d'Angleterre, alors ça c'est un petit peu avant la reine d'Angleterre, et c'était dans les années 1000, au début des années 1000, 1030, quelque chose comme ça. Un jour, il a eu l'idée de faire installer son trône sur la plage. Il s'est assis sur le trône et il a commandé à la marée montante de redescendre. C'est étrange, un peu comme question. À votre avis, à part un bon bain de pied, le bonhomme, je pense qu'il n'a pas eu autre chose. La mer n'a pas dû se retirer. Mais en fait, il faisait cela pour la bonne cause. Il faisait cela pour montrer à ses sujets, à ses courtisans, qu'il n'avait aucun pouvoir, en fait. Il n'avait pas de pouvoir sur les éléments. Seul ce pouvoir appartient à Dieu. C'est lui seul qui a l'autorité sur les éléments. Il n'est pas écrit dans ce passage de la Genèse que je viens de vous citer que l'homme dominerait sur l'homme. Seul Dieu a aussi ce droit absolu, et on voit bien que très rapidement, l'homme a voulu dominer sur ses semblables. C'est aussi ce que nous a rappelé Jacques tout à l'heure, tout au début de sa présidence, alors que Dieu était venu pour apporter la paix. On voit que Abel et Caïn, ou Caïn plutôt, n'a pas accepté cela, et il a tué son frère. Et pourtant, ces deux frères qui ont grandi dans la même famille, qui ont certainement eu la même éducation, les mêmes soins, le même amour, un jour, l'un et l'autre ont aussi désiré faire une offrande à Dieu, et on sait très bien dans la Bible, si on lit Genèse 4, je crois, que l'offrande de Abel a été agréée, mais pas celle de Caïn. Et Caïn, il est rentré dans une colère folle, ça n'a pas été très... Il a très mal accepté le fait de ne pas être agréé par Dieu. Et on sait ce qui s'en est suivi. Par contre, l'Éternel, quand il voit que Caïn est en colère, il lui parle, et la chose aurait pu en rester là, car l'Éternel, il a cette parole pour Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais Caïn, il n'a pas eu ni la force, ni le courage et la sagesse d'écouter l'Éternel. Il a tué son frère, et on connaît ce qui s'est suivi à partir de là. Et beaucoup de choses ont changé dans le monde au cours de l'histoire. Il y a une seule chose, par contre, qui n'a pas changé, et je pense que là vous serez d'accord avec moi, et d'ailleurs c'est la Bible qui le dit aussi, c'est le cœur de l'homme. Dans Jérémie 17, verset 9, on peut lire ce passage, « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'explore les cœurs, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Le cœur humain reste le même, et l'attrait du pouvoir n'a rien perdu de sa fascination. On se bouscule pour l'acquérir. Je vous ai parlé tout à l'heure des élections. Vous vous rappelez combien il y avait de candidats à l'élection présidentielle il y a un mois et demi ? Sur la ligne de départ, ils étaient 12. C'est bien qu'il y a, bon, il y a du travail, hein. Il y aurait eu du travail pour les 12, à mon avis, mais il y en avait qu'un qui avait la place. Dans certains pays, on va même jusqu'à assassiner, faire disparaître le candidat ou les candidats qui sont trop gênants. Trop souvent, l'homme veut se mettre à la place de Dieu, usurper le titre et à partir de là, faire des choses opposées à ce que Dieu lui demande. Et de là à l'abus de pouvoir, il n'y a qu'un pas. Vous connaissez peut-être ce qui nous est rappelé dans 1 Roi au chapitre 21, c'est un passage que j'aimerais vous lire maintenant. C'est l'histoire du roi Achab et de Jézabel, sa femme. On va lire 1 Roi, chapitre 21, les versets 1 à 16. Voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait tenue Naboth de Jézréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Monsieur se met à bouder. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel, je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi qui maintenant exerces la souveraineté sur Israël ?» Elle lui montre un peu qui doit être le pépère. Hein. « Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te la donnerai, la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, en attendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Quoi de plus simple? Il y en a un qui gêne. On le débarrasse. On se demande un peu comment Dieu peut laisser agir de telles personnes au cours de l'histoire, qui peut permettre à des personnes ainsi haut placées de faire des choses pareilles. Alors même si l'Éternel va les juger suite à leurs actes et les faire disparaître, en attendant, ils continuent à commettre des choses horribles. Alors ça, vous allez me dire, ça s'est passé il y a très longtemps, hein, c'était dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si de nos jours les choses ont véritablement bien changé, quand on voit un petit peu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, pour ne citer que ces pays-là, alors qu'il y en a certainement bien d'autres qui font les mêmes choses. Vous savez tout ce qu'on lit dans le livre d'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cette histoire d'Akab n'est malheureusement pas un cas isolé dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez peut-être aussi du meurtre que David a commis sur Uri, alors qu'il avait convoité la femme d'Uri, qu'il avait prise pour épouse, et qui, ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Elle tombait enceinte, il devait avoir un enfant, et pour supprimer un peu ce mari gênant, eh ben pareil, on liquide. Ces deux exemples ne sont pas marqués pour rien dans la Bible. On peut se dire ça ne nous concerne pas ou ça ne nous concerne plus. Ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. C'est aussi ce que nous rappelle l'Épître aux Romains. Alors vous, de votre côté, vous avez peut-être tué personne pour pas venir à vos fins, je l'espère en tous les cas. Mais simplement, par notre langue, est-ce qu'on n'a pas un peu ce pouvoir de destruction du plus petit? Je vous rappellerai juste ce verset du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 18, verset 21, qui nous dit ceci. « La langue a pouvoir de vie ou de mort. » Donc, ces deux exemples nous montrent bien que le désir le plus commun à tous les hommes, c'est sans contredit celui de posséder le pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos jeunes années, mais moi déjà à l'école primaire, je n'aimais pas trop me laisser marcher sur les pieds. Les choses ont d'ailleurs pas très changé malheureusement aujourd'hui. En tout cas, que ce soit par la politique, que ce soit par l'argent, la célébrité, voire même le crime, comme on a pu le voir par ces deux exemples que je vous ai cités avant, cette envie de dominer, de devenir quelqu'un de puissant, nous habite tous. Alors désolé pour ceux qui n'auraient pas ce souhait, mais je crois que les uns après les autres, on les a quand même un petit peu tous suivis. Ne croyons pas qu'en tant que chrétiens, nous puissions être épargnés par ce type de comportement, qu'on ne serait pas concernés. Combien de fois dans les églises n'y a-t-il pas eu ce désir par l'un ou par l'autre de prendre autorité? Et quels dégâts cela a pu générer? Je crois qu'on en a eu quelques exemples, ne serait-ce qu'ici chez nous, mais l'église de L'Oriole n'est pas un exemple isolé malheureusement. Alors qu'on connaît tous ce commandement de Jésus, je pense qu'il nous demande de faire et de se faire à son image le serviteur de tous. On a un exemple frappant aussi dans le Nouveau Testament cette fois-ci, donc c'est déjà un petit peu moins loin que nous, tout ça. Et dans Marc 9, verset 31, je ne sais pas si vous savez ce qui est écrit, mais le Seigneur, il était en train d'expliquer à ses disciples ce qui allait être sa part dans les jours qui suivraient. Eux, ils n'y comprenaient rien. Et pour cause, ils étaient occupés, préoccupés de toute autre chose. En chemin, vous savez de quoi ils avaient discuté? Voilà, ils avaient discuté de qui était le plus grand. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre ce qui nous est dit dans Marc 9, alors on ne va pas lire les passages parce que le temps passe trop vite et je ne voudrais pas abuser. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé entre ce passage de Marc 9, verset 31, que vous pourrez lire tranquillement chez vous pour étudier un petit peu le texte, et le chapitre suivant, le chapitre 10, où là, il y a deux disciples qui en remettent encore une couche. Jacques et Jean, ils s'approchent de Jésus et lui demandent une chose. Vous savez quoi? Être assis à la droite et à la gauche de Dieu quand il règnera. Le pouvoir. Encore une fois, Jésus est en train de les enseigner. C'est une autre fois, hein, puisque Jésus, dans le texte, il leur dit, une autre fois, il est pris à part. Donc, il ne s'est pas passé énormément de temps entre la première et la seconde fois. Mais une autre fois, apparemment, ils n'avaient pas tout compris. Il fallait leur expliquer les choses. Et là, Jacques et Jean, apparemment, manifestement, ils n'ont pas encore tout compris. Rien que ça, demander d'être assis à la gauche et à la droite de Jésus quand il serait dans sa gloire. Vous imaginez un peu, moi je suis culot, mais je ne sais pas si je me serais permis de demander des choses pareilles au Seigneur quand même. Cette envie de pouvoir qui peut, voilà ce que ça peut donner. Que Dieu nous garde toute cette envie de grandeur ou de puissance, de ce genre de choses, si ce n'est pas pour seulement pour l'avancement de son règne. S'il nous demande à ce moment-là de nous positionner pour faire avancer les choses, alors là on peut y aller, mais si c'est uniquement pour écraser les plus petits, je pense que ça ne vaut pas la peine. Dans le passage de Matthieu 4 aussi au verset 8, ce passage qui nous parle de la tentation de Jésus que lorsqu'il est amené au désert, le diable dit à Jésus, alors qu'ils sont tous les deux sur une très haute montagne, d'où on peut voir une étendue immense de tous les domaines de la terre. Satan dit à Jésus, « Je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire si tu te prosternes pour m'adorer. » Vous connaissez la réponse de Jésus, hein, il a dit « Je n'adorerai le Seigneur et le Seigneur lui seul. » Satan qui cherche par tous les moyens à dominer et qui sait si bien s'y prendre. Satan, qui était pourtant une créature angélique, comme on le voit tout au début, nous avons une image symbolique dans Ézéchiel au chapitre 28, les versets 12 à 17. Voici ce que dit l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couverte de toutes sortes de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et encore cet autre passage dans Ésaïe 14, verset 12 que j'ai relevé, verset 12 et suivant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut Satan qui signifie adversaire. Il est aussi appelé le diable, le calomniateur. Il est menteur et le père du mensonge. Vous pouvez trouver ce passage dans Jean chapitre 8, verset 44. Dès la création, Satan, sous la forme du serpent, est intervenu pour détourner Adam et Ève des bénédictions que Dieu voulait leur accorder. Dans ce jardin d'Éden, où tout était à leur disposition, Satan dit à la femme, « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. » La femme lui disait que Dieu lui avait ordonné de ne pas manger tel et tel fruit. Il ne fait pas les manger de tel fruit, de la connaissance du bien ou du mal. Et Satan savait très bien que ce jour, le jour où ils en mangeraient, leurs yeux seraient ouverts, ils seraient comme des dieux. Malheureusement, on voit bien que la femme a désobéi à Dieu et qu'elle a obéi aux ruses de Satan, qu'elle a écouté les ruses de Satan, elle a mangé du fruit défendu. Et comme on peut le lire dans l'épître des Romains, Paul, dans l'épître aux Romains, il peut dire qu'à ce moment-là, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Satan domine dans ce monde, dont il est le chef. Jean 14, verset 30. Mais j'aimerais finir quand même sur une note un petit peu plus, une note d'espérance quand même, revenir à celui qui a autorité sur toute chose. Même si nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie, comme il est dit dans Hébreux 2 au verset 8. La source de l'autorité ne peut être que dans le Créateur, Dieu qui la possède dans sa plénitude, car comme on l'a lu dans le livre de la Genèse tout à l'heure, il est le Dieu Tout-Puissant. Et il est, comme on le lit dans 1 Timothée 6, verset 15, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et on pourrait rajouter aujourd'hui le président des présidents. Toute autorité vient de Dieu. Romains 13, verset 1 et 2. Toute autorité m'a été donnée. Matthieu 28, verset 18. Et cette autorité, il la confie à des créatures invisibles, les anges, mais aussi à des créatures visibles, les humains. On trouve trois sortes d'autorité dans les épîtres. Je citerai qu'un seul verset à chaque fois, mais vous pourrez en trouver plein d'autres, j'imagine. Les autorités célestes, Éphésiens 3, verset 10, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. On a les autorités terrestres, Tite 3, verset 1, nous dit que nous devons être soumis aux magistrats et aux autorités. Et en 3, on a les autorités sataniques. Colossiens 2, verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Un jour, tout genou fléchira devant lui. Que cette pensée puisse amener chacun à réfléchir aujourd'hui encore au sort éternel qui lui est réservé. Un jour, le Seigneur remettra à Dieu le Père le royaume, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Alors laissons régner celui qui seul en est digne. Ne cherchons pas à vouloir nous imposer systématiquement. À celui qui est fidèle dans les petites choses, a dit Jésus dans ce passage de Marc 10 et 9 que j'ai pas lu, mais à celui qui est fidèle dans petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Cherchons donc à imiter celui que nous venons adorer ici chaque matin, celui qui ce matin encore a été présent au milieu de ces deux ou trois ici par son esprit, mais aussi au milieu de tous ceux qui sont réunis en son nom. L'autorité du Seigneur est là, parmi nous, au milieu de nous, qui nous donne conscience, d'en prendre conscience chaque fois que nous nous réunissons.